France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Le poète, romancier et essayiste Marcelin Plénet est l'auteur d'une œuvre impressionnante. Il fut également responsable de la rédaction de la revue Telle Quelle, avant de l'être aujourd'hui de la revue L'Infini. Alain Weinstein avait créé une émission intitulée « Devine qui vient dîner ce soir ». En 1981, cette belle formule radiophonique nous avait permis de prendre un contact joyeux et vivant avec Marcelin Plénet et certains de ses livres.
Vous pouvez reprendre un peu de langouste, là. Elle est très bonne, hein, Bruno? Tu me passes le... Tu me passes le rince-doigt, s'il te plaît?
Il n'y a plus assez de citron.
Je déteste la langouste.
Ah, l'antenne? Bon. Ah, d'accord, on commence. Bonsoir. Devine qui vient dîner, donc, ce soir, chez Marcelin Plénet. Mais un dîner qui commence par une parenthèse d'angoisse. L'angoisse que connaissent bien les maîtres de maison. Vous savez, quand l'invité se trompe de date, alors il y a deux cas de figure. Il vient quand on n'attendait pas, ou il ne vient pas quand on l'attendait. Et c'est la grande première qui nous arrive ce soir dans cette émission, car un malentendu sur le calendrier fait que Claude Royer-Journoux admire à Antibes les travaux récents de Lars Fredriksson. Et du coup, je suis seul chez Marcelin Plénet, avec l'obligation sympathique de mettre les bouchées doubles. Marcelin Plénet, évidemment, tout le monde connaît, je ne vais donc pas le présenter. C'est un poète qui représente assez largement ce qu'on appelle l'avant-garde, ne serait-ce que parce que ses livres de poésie ont tous été publiés dans la collection Telle Quelle. Ces livres, je les rappelle, ils sont au nombre de 5. Il y a eu Provisoire amant des nègres en 1962, Paysage en deux, en 63, Comme, en 65, Stance, en 73, et enfin Rime, qui vient tout juste de paraître. Mais Marcelin Plénet, c'est aussi quelqu'un dont les écrits sur la peinture ont, en particulier sur les peintres, une influence que personne aujourd'hui ne se risquerait à discuter. On peut les découvrir, ces écrits, dans L'enseignement de la peinture, un livre qui a paru en 1971, et dont une version abrégée a été publié dans une collection de poche, la collection Point, sous un autre titre, Système de la peinture. Art et littérature se rejoignant dans un autre gros volume qui, lui, est apparu en 1977 et qui, justement, a pour titre Art et littérature. Il faudrait parler aussi de Marcelin Plénet, journalier. Il a publié le journal de son voyage en Chine en 1980 et, simultanément à son livre de poésie, chez Hachette POL, Spirito Peregrino, chronique de journal ordinaire, le journal de l'année 79. Et peut-être que je ne dois pas oublier de dire que Marcelin Plénet est né en 1933 et qu'il est secrétaire de rédaction et membre du comité de la revue Telle Quelle depuis 1962. Ça, je crois, Marcelin Plénet, qu'on peut le dire, car vous êtes peu nombreux à être resté au comité de rédaction de Telle Quelle depuis 1962.
Nous sommes deux. Solers, qui était là bien avant, et moi-même, qui suis entré en 1962, effectivement. Telle Quelle est une grande aventure. C'est un bateau qui va sur des mers mouvementées et dont les marins parfois tombent. Disons que j'ai le pied marin.
On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais je dois redire encore une fois que nous sommes en direct chez vous, rue de la Convention, dans le 15e arrondissement. De vos fenêtres, on aperçoit la Seine. Et à côté de vous, des invités que je vous laisse le soin de présenter. Je vois d'abord une jeune femme blonde sous un oranger.
Oui, alors la jeune femme blonde sous un oranger, c'est Jacqueline Léchave. Qui est une très vieille amie et une très bonne amie.
Ciel.
Qui est une jeune vieille amie.
Merci. Merci.
Qui a publié l'année dernière un livre très important sur la danse et certainement le livre le plus intéressant, le plus important qui a été publié sur ce danseur américain qui s'appelle Merce Cunningham et qui est bien connu en France puisqu'il est intervenu à l'opéra notamment.
Et à Avignon au festival.
Oui. C'est un livre d'entretien et c'est certainement le meilleur livre qui ait jamais été fait sur et avec ce Merce Cunningham.
Mais Marcela, c'est parce que c'est aussi le seul livre fait avec Merce Cunningham.
C'est le seul qu'il ait accepté de faire.
C'est cela. C'est juste.
Laissez-moi vous gratifier.
Un peu.
Là, encore une jeune femme.
Alors, encore une jeune femme qui est aussi une vieille amie, qui est Anne-Marie Houdbin, qui est linguiste, que je connais depuis mon Dieu, une dizaine d'années, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur le langage québécois, dans un gros livre qui est paru chez Stock. Qui est paru chez Stock, et j'ai eu à cette occasion l'honneur d'interviewer Anne-Marie Houdbin sur des problèmes que me posait le langage québécois. Ça a donné quelque chose qui n'a peut-être pas été très lu, mais que je trouve très intéressant.
Oui, moi aussi. Je trouve qu'on a été très intéressants, tout à fait. En particulier en parlant aussi, comme ça, du langage de l'oral, du langage de Lacan. Il me semble qu'on a parlé du langage français aussi.
Bon, ben, on n'y était pas, alors ne nous faites pas regretter. Mais il y a encore un mathématicien et deux peintres.
Alors, il y a encore Henri Nathan, qui est d'abord un mathématicien. Je ne sais pas s'il faut dire d'abord un mathématicien et ensuite un homme de culture, ou un mathématicien et un homme de culture, qui a traduit avec Jacqueline Léchave un long poème qui figure dans Rime, donc, qui vient de paraître aux éditions du Seuil, donc, qui ont traduit ce poème qui s'appelle La gloire du ciel en anglais. Et il y a parmi nous, donc, dans un tour de table un peu croisé, que nous pratiquons, Raquel, qui est peintre, avec qui je viens de faire un livre, ou qui vient de faire un livre avec moi, qui s'appelle Ma destruction, où il y a de magnifiques œuvres de Raquel. Raquel a cette particularité de faire soit de très très grands tableaux, soit des œuvres qui sont au format du livre. Je trouve ça très 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 intéressant de passer de ce format absolument monumental à ce format du livre, qui peut être aussi un format monumental, n'est-ce pas? Le livre peut très bien évacuer la qualité phénoménologique qu'il représente.
Et puis un autre peintre à côté d'elle qui ne copie pas sur elle, tu dois le dire.
Et un autre peintre à côté d'elle qui s'appelle Pierre Nivollet, qui appartient à la dernière génération de peintres apparus à Paris, et qui effectivement a une peinture plus immédiatement expressivement lyrique que celle de Raquel, et qui se fait notamment remarquer par une sorte de commentaire lyrique sur l'arabesque.
Je remarque donc que ce soir, vous n'avez pas invité de poètes, ce sont des gens qu'on ne fréquente pas.
Cher Alain Weinstein, vous étiez là.
Bon, alors parlons d'autre chose. Parlons, puisque nous sommes, Marcela Plenet, en direct chez vous, parlons de ce lieu où nous sommes. Est-ce que c'est un non-lieu ou un vrai lieu? Et comment organise-t-on le lieu de son renfermement?
Je ne sais pas du tout. Je crois que le lieu de son renfermement, en vérité, on ne l'organise pas. Disons qu'on prend des précautions. On prend des précautions avec les intrusions extérieur, mais on n'organise pas le lieu de son renfermement. Ça n'est pas vraiment un lieu de renfermement. C'est quand même d'une certaine façon un non-lieu. Je pense qu'il doit être très très difficile d'organiser un lieu viable à Paris. Paris, c'est vraiment la ville où on installe son bureau et son standard téléphonique, n'est-ce pas?
Mais comment le décrire rapidement pour que les auditeurs puissent l'imaginer? On va dédier cette séquence à Claude Royer-Journoux.
Eh bien, écoutez, d'abord, je voudrais dire que je regrette que notre ami Claude Baudroyer-Journaud ne soit pas là, parce que c'est un autre poète avec vous, cher Ravenstein, que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup. Et qui plus est, mon admiration me donne l'occasion de vous souhaiter de bonnes vacances. Je regrette qu'il ne soit pas là, mais je suis très heureux qu'il
nous reviendra bronzé.
Alors ce lieu, comment le décrire ? Il est, disons qu'il est juste au-dessus du pont Mirabeau, qui est un haut lieu poétique français depuis le début de ce siècle. Parce qu'il paraît que la Seine coule dessous. Je crois que ça n'est plus tout à fait la Maine, d'ailleurs, qui coule sous ce pont Mirabeau. Disons qu'il est entre le pont Mirabeau et la Tour Eiffel et qu'il bénéficie d'un très heureux soleil couchant que j'aime beaucoup.
Alors du coup, après cette petite parenthèse sur le lieu, j'aimerais qu'on parle du dehors, parce que au dos de Provisoires amants des nègres, donc votre premier livre, je lis Marcelin Plénet a passé son enfance et son adolescence à voyager à travers la France et l'Europe. Et puis je sais aussi, parce que j'ai lu les autres livres, qu'il y a eu de plus grands voyages, les États-Unis et la Chine, et l'Italie aussi, et surtout Venise. Mais des petits voyages aussi qui ont leur importance, comme les voyages à Blévis, qui est aussi un lieu élu, un village de campagne, je crois. Puis il y a aussi le fait que, comme tout écrivain, vous êtes, et vous le dites vous-même, le voyageur de commerce de votre œuvre.
Oui, ça c'est affreux. Mais écoutez, moi je ne sais pas vraiment de ces lieux et de ces voyages. Ce que je sais, c'est que Blévis est un lieu qui me permet de ne pas être tout à fait dans mon siècle, de temps en temps, ce qui est bien agréable et bien utile pour écrire.
C'est où ça ?
Blévis, c'est entre Chartres et Dreux. C'est au bord de la Beauce, c'est une petite vallée qui se trouve au bord de la Beauce et où j'ai une petite maison où j'essaie de me retirer le plus souvent possible. Donc si vous voulez, c'est un lieu, c'est une maison qui date du début du 19e siècle et c'est un lieu qui est tout à fait éloigné de Paris. C'est en cela que je le chéris.
On ne parle pas de la Chine, on ne parle pas des États-Unis, pas tout de suite, pas d'Italie.
Comme vous voulez.
Bon, on en parlera plus tard. Alors, parce que dans le journal qui vient de paraître, je lis cette phrase. En vérité, je ne me retrouve que dans la longue et lente fréquentation des idées, des mots, des phrases. On retrouve donc là l'idée du renfermement.
Écoutez, ça c'est d'une certaine façon le problème de l'écrivain. C'est-à-dire que évidemment, lorsqu'on rencontre un écrivain dans la rue, chez l'épicier ou chez le boucher, il se distingue pas forcément de son voisin. Je crois que quand même le problème de l'écrivain, c'est que c'est un homme qui n'est jamais tout à fait dans l'existence, qui n'est jamais celui que l'on rencontre et qui n'est jamais au fond celui qu'on voit. Et j'ai envie de dire en ce moment qu'il n'est jamais non plus tout à fait celui que l'on entend, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que lorsqu'il est écrivain, eh bien, au fond, il doit détester parler de lui-même et il doit détester parler de ce qu'il écrit. Il est même dans l'incapacité de le faire d'une certaine façon. Donc, si vous voulez, c'est tout le problème du rapport à l'œuvre littéraire, c'est qu'on n'est jamais en direct sur l'œuvre littéraire. On est toujours déporté par rapport à l'œuvre et au fond, on est toujours pris dans une série de représentations de l'œuvre et de représentations de l'écrivain qui n'ont finalement pas grand-chose à faire ni avec l'œuvre ni avec l'écrivain. L'écrivain, évidemment, il vit dans les phrases, il vit dans les livres, il vit dans le langage et peut-être même qu'il vit dans ses rêves.
Dans la phrase que je citais, je remarque que vous placez les idées avant les mots.
Oh, vous savez, la construction d'une phrase est pour moi plus importante que ce qu'elle dit. Donc si j'ai mis le mot « idée » avant la lettre ou avant la phrase, c'est que tout simplement c'était plus réussi à l'oreille.